France Inter, le 18-20.
Et voici le téléphone sonne. Ce soir, la fiscalité écologique est-elle efficace ou punitive? Grand débat en ce moment qui échauffe les esprits. On l'a vu et entendu lors de ses déplacements mémoriels dans l'Est et le Nord pour l'armistice de 14-18 cette semaine. Emmanuel Macron a été continuellement interpellé vigoureusement sur ce sujet. Ce matin, François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, proclamait « L'État peut faire un effort pour financer des aides aux ménages face à la hausse des prix des carburants. » Le gouvernement prépare des aides que souhaite Emmanuel Macron. Le président dit qu'il entend l'inquiétude et qu'elle est légitime. Alors, différentes pistes sont envisagées. Élargissement du chèque énergie, doublement du nombre de primes à la conversion, des aides pour ceux qu'on appelle les gros rouleurs, pouvant justifier de leurs nombreux kilomètres annuels, un chèque carburant défiscalisé. On parle aussi d'un forfait versé par l'employeur aux employés se rendant sur leur lieu de travail en covoiturage. Les arbitrages sont en cours. Vous voulez en savoir plus, nous donner votre opinion, appelez-nous, c'est maintenant 01 45 24 7000, le site de l'émission franceinter.fr. Pour vous répondre, nos invités ce soir, Bénédicte Pérol, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député La République En Marche de l'Allier, membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale et auteur d'un rapport sur la fiscalité écologique. François Carlier, bienvenue, bonsoir.
Bonsoir.
Délégué général de l'association de consommateurs CLCV, consommation, logement, cadre de vie. Et puis Delphine Simon, bonsoir Delphine.
Bonsoir.
Journaliste au service économique de la rédaction de France Inter.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Avant de prendre des auditeurs, d'abord une mise au point avec vous, François Carlier. Qui vous a dit à l'hôtel Matignon que la hausse des taxes sur les carburants est destinée à compenser la taxe d'habitation qui est supprimée?
Oh, c'est le conseiller budgétaire. En gros, alors ce qu'il nous a dit, c'est que nous, on estimait qu'avec l'augmentation du prix du baril de pétrole, le signal prix écologique, qui est normalement l'argument officiel de cette politique, était déjà très puissant et qu'il n'y avait pas besoin de faire une augmentation de taxes supplémentaires pour le 1er janvier 2019, ou en tout cas de faire une augmentation moins forte que ce qui était prévu. Et là, il nous a dit, oui, mais je comprends ce que vous dites, mais je ne peux pas, parce que les augmentations de taxes telles qu'elles sont prévues, elles font partie de mon bouclage budgétaire. Je ne peux pas m'en passer, notamment, alors pas que en fait, mais notamment pour supprimer la taxe d'habitation. Mais l'idée, c'est que ça fait partie d'un bouclage budgétaire et donc on ne pouvait pas y toucher. Et ça, on le regrette parce qu'avec l'augmentation du prix du baril, on pouvait, je pense, moduler cette hausse de taxe.
Le gouvernement dit que vous mentez. Fake news, dit le gouvernement.
Ouais, je trouve ça dommage parce qu'en fait, eux-mêmes disent qu'ils augmentent les taxes sur le carburant, mais d'un autre côté, ils baissent d'autres taxes. Donc en fait, ils disent un peu la même chose. Je crois que le gouvernement, fake news, c'est tout à fait désobligeant comme terme. Je crois que le gouvernement perd son sang-froid dans ce domaine. Et quand au mois de septembre, on est allé voir ces gens pour leur dire peut-être que vous pouvez un peu moins augmenter les taxes, peut-être que vous pouvez faire un peu plus d'aide, on nous avait répondu non. Je pense qu'ils auraient mieux fait de nous répondre oui.
On va aller au standard. Jeanne est en ligne avec nous. Bonsoir Jeanne, merci d'écouter le téléphone sonne. C'est à vous maintenant.
Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir pourquoi on interdisait certains véhicules diesel et pas les yachts privés, les jets privés qui sont une aberration selon moi, et d'un point de vue de consommation. Et je voulais savoir aussi, est-ce que le carburant est taxé de la même façon sur les bateaux, notamment de croisière et sur les avions. Voilà.
On va vous répondre, Bénédicte Pérol.
Bonsoir, oui. Alors concernant la première question, pourquoi on n'interdit pas l'utilisation de yachts diesel, si j'ai bien compris.
Interdit, alors, c'est peut-être pas le bon mot, oui. Il s'agit de taxer.
Alors en fait,
d'imposer.
Justement, le principe de la fiscalité écologique, c'est de laisser la liberté aussi aux gens de pouvoir. Il y a un signal prix qui est donné, et effectivement, en fonction de ce signal prix, je vais avoir un comportement plus ou moins différent. Il ne s'agit pas d'interdiction. On n'interdit pas d'utiliser le diesel ou d'utiliser de l'essence. Et aujourd'hui, je veux dire, ce serait en plus pas du tout cohérent avec la réalité que de dire que c'est possible. Donc, ce signal prix, il est aussi sur le diesel qui est utilisé par les yachts. Et s'ils utilisent du diesel ou de l'essence, c'est la même fiscalité qui est appliquée pour pouvoir alimenter ce type de véhicule comme pour les voitures. Concernant les carburants, la question c'était notamment sur effectivement les avions et c'est vrai qu'il y a eu des discussions, notamment à l'Assemblée l'année dernière sur la taxe kérosène. D'ailleurs, c'était un amendement qui a été porté par certains de mes collègues de la majorité. Là, il y a un sujet au niveau international, notamment avec, je crois, des conventions. Ça relèverait plutôt de l'OMC. Et puis aussi, il faut voir que, on pourrait le faire sur les vols intérieurs, mais il y a toujours des sujets, c'est comme le secteur du transporteur routier de marchandises, où c'est des économies et des secteurs qui sont avec une marge qui est assez faible. Et c'est quand même des pourvoyeurs d'emplois, etc. Donc il faut avoir une politique forte et de transition écologique aussi concernant ces secteurs-là, mais j'ai envie de dire ça se dialogue et ça se discute à un autre niveau.
Parce qu'on a beaucoup de questions sur le site de l'émission, sur cette idée de taxer le kérosène des avions. Nous, en France, on ne peut pas le décider comme cela ?
On peut le décider que sur les aéroports, que sur les lignes locales. En fait, au départ, lors des conventions, je crois que c'est la fameuse convention de Chicago, où au tout début du transport aérien, on avait dit pas de taxe sur le kérosène à l'international parce qu'il s'agissait de subventionner une industrie naissante qui était le transport aérien. Et on a laissé ça parce que après, il faut que tous les pays soient d'accord ou presque et c'est extrêmement difficile. Donc c'est vrai que ce sujet n'avance pas. Alors on peut le faire au niveau local, des lignes locales, mais là évidemment, ça désavantagerait, je dirais, la ligne locale par rapport à d'autres.
Mais certains pays l'ont malgré tout fait, les États-Unis, le Japon, les Pays-Bas, la Suisse, donc c'est possible.
C'est possible, c'est vrai. Hein,
Après, qu'est-ce qui bloque ?
Bénédicte Pérol.
Qu'est-ce qui bloque ? Ben encore une fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on a un secteur ce secteur aérien qui est pas forcément déjà ultra compétitif par rapport à d'autres, et donc c'est un choix économique qui est fait par rapport à finalement ces autres États. Et je pense que la France à ce niveau-là fait le choix effectivement de plutôt négocier encore une fois au niveau international.
François, bonsoir François. Vous êtes sur l'antenne. Voilà. Nos invités vous écoutent. Posez votre question.
Alors ma question est très simple. Ça concerne la gratuité des transports en commun, puisque les gens qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail, au lieu de prendre leur voiture, ils pourraient prendre les transports en commun. Donc ça se fait déjà dans pas mal de grandes villes de France, notamment Aubagne depuis 2009, quand même 100 000 habitants. Vous avez également Dunkerque qui s'y est mis là depuis septembre 2018, 200 000 habitants sur l'agglomération, Niort, 120 000 habitants. Et puis pas seulement en France, il y a beaucoup d'autres villes où ça se fait, mais vous avez par exemple en Estonie aussi, la capitale de l'Estonie, 420 000 habitants qui est aussi avec tous les transports en commun gratuits depuis 2013. Voilà, donc moi je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'essayer d'augmenter un peu le nombre de communes qui proposent ce type de service ? Parce que là, pour le coup, au lieu de prendre sa voiture, on remplirait les cars, on remplirait les tramways, on remplirait les bus et on consommerait tous beaucoup moins de gasoil.
On va vous répondre, François. François Carlier, délégué général de l'association de consommateurs CLCV, consommation, logement, cadre de vie. Les transports en commun gratuits, bien sûr, c'est séduisant, mais qui va financer ces transports en commun ?
J'ai envie de dire, ça vaudrait le coup qu'il y ait une vraie réflexion nationale sur ce sujet, parce que après tout, les taxes sur le carburant, c'est 37 milliards d'euros, donc on peut se poser la question, est-ce qu'on fait pas cette grande mesure en faveur des transports en commun ? Alors ce qu'on me rétorquera, c'est que ce qui compterait le plus, c'est de développer l'offre de transport en commun, c'est-à-dire qu'il y ait plus de lignes, plus d'arrêts, pour qu'il y ait plus de gens qui viennent, parce que la gratuité, on risque de la faire pour des gens qui, de toute façon, l'utilisent déjà. Je pense qu'on peut réfléchir sur les deux, c'est-à-dire à la fois un développement de l'offre, parce que ça, c'est ce qui permet quand même de l'offre et du confort aussi d'ailleurs, parce que c'est ce qui, et de la fréquence, parce que c'est ce qui permet d'avoir des nouvelles personnes qui laissent tomber la voiture pour aller vers les transports en commun, mais aussi pourquoi pas réfléchir éventuellement à des dispositifs de gratuité, parce que après tout, c'est un signal fort et on a quand même quelques moyens.
Bénédicte Pérol, députée de La République En Marche de l'Allier.
Alors c'est vrai que les transports aujourd'hui en commun, alors moi je suis députée d'un territoire rural, donc on est plutôt aujourd'hui effectivement, alors en plus d'Auvergne, de l'Allier, souvent appelée la diagonale du vide, donc c'est vrai que aujourd'hui les transports en commun, nous on est plutôt dans une politique où on veut développer les mobilités, ce qu'on appelle du quotidien, et justement dans ces territoires aussi où il n'y a pas de transport en commun, c'est comment on répond aux besoins quotidiens des Français qui aujourd'hui sont obligés d'utiliser la voiture pour aller au travail. travail.
Ça veut dire quoi, les mobilités du quotidien?
Ça veut dire utiliser, il y a les dispositifs de covoiturage, et contrairement à ce qu'on peut penser dans les territoires ruraux, moi je vois dans ma circonscription et dans l'Allier de manière générale, vous avez des parkings qui sont en train de se développer. Après, il y a le sujet, c'est comment on met en collaboration justement les gens les uns avec les autres, comment on fait savoir finalement qu'on peut covoiturer. C'est aussi tous les dispositifs. Alors vélo dans l'Allier, c'est un peu plus compliqué, hein, parce que quand vous êtes en montagne bourbonnaise et vous voulez faire Vichy le Maillet de montagne, prendre le vélo, je crois que c'est pas forcément réaliste. Mais c'est vraiment développé.
Sur la question précise de l'auditeur, les transports en commun gratuits, est-ce que vous y croyez? C'est réaliste?
En France, c'est pas la direction aujourd'hui qui est prise au niveau national. On est plutôt, encore une fois, sur le fait de développer ces mobilités du quotidien. Après, il y a des collectivités aujourd'hui qui font le choix de mener cette politique-là. Je ne dis pas que c'est pas quelque chose qu'il faut pas regarder, parce qu'effectivement, c'est intéressant. Mais encore une fois, il y a le sujet des financements, effectivement, et c'est un vrai choix de politique nationale. Mais nous, aujourd'hui, notre vraie volonté, c'est de développer cette loi mobilité qui va arriver d'ailleurs très rapidement. C'est d'être plutôt sur les dispositifs de mobilité du quotidien et répondre justement là où il n'y a pas de réseau de transport en commun.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Jean-Claude nous a appelé au standard du téléphone sonne. Bonsoir Jean-Claude.
Oui, bonsoir.
Allez-y, bonsoir, vous êtes en direct.
Merci. Juste pour dire, Daniel Mermet avec Là-bas si j'y suis, c'était une émission super. Après, vos émissions sont bien, mais il nous manque.
Mais vous savez, la radio et les programmes se renouvellent et puis...
Oui, je m'en doute.
Personne n'est irremplaçable. Ni moi, ni Daniel Mermet, ni vous. Personne.
Donc, j'ai entendu que la loi de programmation, là, ils avaient supprimé, c'est tout nouveau, vous venez de le dire tout à l'heure aux infos, que supprimer les voitures en 2040, ça avait été supprimé. Donc je pense que le gouvernement, il a l'air de vouloir continuer les voitures. Enfin, depuis que Nicolas Hulot est parti, enfin bref. Moi, ma question, c'était les petites lignes, on les ferme. Les petites lignes SNCF, pardon. Et là, je suis passé, ça doit être la ligne Gap, Grenoble. Il y avait une manif à Grenoble, fin de l'été. Ils voulaient garder leur train, je veux dire, c'est quand même ce qui pollue le moins, qui dépense le moins d'énergie, puisque c'est des roues fer sur fer. Les centrales nucléaires, elles produisent, on peut pas les régler, donc autant se servir de l'électricité qui est produite. Et voilà, donc ces petites lignes, ne pas les fermer, essayer de garder le maximum. Quand on regarde qu'on fait du tout TGV, moi mon fils il descend de Compiègne pour venir, il prend l'avion parce que c'est moins cher que le TGV, et en plus c'est un peu plus rapide.
Jean-Claude, on a compris votre question, une sorte de contradiction. On dit il faut développer les transports en commun et on ferme des petites lignes. François Carlier?
Oui, c'est vrai que c'est une contradiction.
La fermeture des lignes SNCF, des petites lignes.
C'est vrai que c'est une contradiction. Alors des fois, l'opérateur dit c'est parce que la ligne est peu fréquentée. Alors peut-être qu'aussi, justement, il faut qu'il y ait plus de fréquence, plus de confort, enfin plus de praticité pour qu'elle redevienne fréquentée. Mais c'est vrai que monsieur a raison de dire que c'est quand même un paradoxe. Hein. C'est-à-dire, si on dit qu'il faut sortir de la voiture, en tout cas de la voiture, je dirais, à essence, ce qui est tout à fait légitime, on doit se poser la question quand même du raménagement du rail.
Question sur le site de l'émission d'un auditeur, Daniel. Alors, il nous a écrit « Les impôts verts, la TICPE, taxe sur les produits énergétiques, c'est, semble-t-il, 37 milliards d'euros. Est-ce que toute cette somme finance la transition écologique ou alors sert-elle, je cite, à boucler les fins de mois de l'État ?» Bénédicte Pérol.
Alors, c'est une question récurrente en ce moment. Cette fameuse TICPE, c'est vrai qu'elle commence à être de plus en plus connue. J'aimerais juste apporter une précision sur cette TICPE et le lien qu'on fait avec la fiscalité écologique. Au départ, c'est vrai que la TICPE, c'est une taxe qui existe depuis les années 60 et que le gouvernement précédent a choisi de, entre guillemets, verdir, c'est-à-dire qu'il a voulu ajouter ce qu'on appelle aujourd'hui la taxe carbone ou la contribution climat-énergie qui donne un prix au carbone. Et c'est cette part-là qui est de la fiscalité écologique qui va aller en augmentation, qui va être de 6 milliards pardon, en 2018 et qui va aller en augmentation jusqu'à 15 milliards en 2022. Et qu'est-ce qu'on en fait? qu'est-ce qu'on en fait de cette ICPE? Alors, sur les 37 milliards, vous avez 12 milliards qui va aux collectivités territoriales. Il y a une part qui va aux régions financer la politique d'apprentissage, une part qui va aux départements financer les politiques de garantie RSA. Vous avez une autre part qui va 7 milliards, plus de 7 milliards en 2019, qui va à ce qu'on appelle un financement de la transition écologique. Ça, c'est une affectation directe. Ça s'appelle un compte d'affectation spéciale et ça vient financer les énergies renouvelables. Et vous avez le reste qui va dans le budget général. Mais le budget général, c'est pas une caisse noire. Le budget général, ça vient financer les politiques environnementales. Alors, on prend de manière très facile la mission écologie qui finance le ministère. Mais moi, j'ai fait mon travail de parlementaire. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis allée prendre chaque, ce qu'on appelle, annexe au budget. Donc, je suis allée voir la mission agriculture. Et dans la mission agriculture, eh bien, vous avez des millions d'euros. Il y a à peu près 800 millions d'euros qui va, par exemple, financer la transition des exploitations vers des exploitations biologiques. Donc, au final, on arrive à un chiffre, à un montant qui est très largement celui de la TICPE.
François Carlier, êtes-vous convaincu par les arguments de Bénédicte Pérol?
Si je réponds, le gouvernement va dire que je mens, donc j'hésite. Écoutez, sans polémiquer, de fait, cette fiscalité n'a pas été conçue comme devant être fléchée strictement à tout ce qui est environnement, énergie. Elle n'a pas été conçue comme ça, et de fait, c'est l'opinion que je donne, elle rapporte plus d'argent aujourd'hui dans le budget de l'État que ce qui est redonné en termes d'aide aux économies d'énergie. Il y a quand même, je voulais dire, c'est qu'il y a un comité pour l'économie verte qui est coprésidé par Madame la députée. Dans une version intermédiaire cet été, les experts du comité d'économie verte disaient qu'en ce qui concerne les particuliers, c'est-à-dire les ménages, ils étaient taxés à hauteur de 23 milliards d'euros pour les énergies fossiles et on leur donnait 4 milliards pour les aider à réduire leur consommation d'énergie fossile. Donc, taxé à 23, une dépense à 4. C'est sorti de ce rapport intermédiaire. Comme moi, je suis aussi membre du rapport de ce comité, j'ai demandé que ce soit remis dans cette annexe. Donc, il faut quand même le dire, il y a un déséquilibre qui existe entre la taxation et les aides. Je pense que c'est assez factuel.
Bénédicte Pérol.
Il faut savoir, vous parlez des aides, mais la question de notre interlocuteur, c'est de savoir qu'est-ce qui vient financer la transition écologique. Et parlons par exemple de rénovation énergétique. Aujourd'hui, si on va voir la mission cohésion des territoires qui finance toute la politique de logement, de rénovation des bâtiments et donc d'économie d'énergie au final, et donc pour que la facture d'énergie des Français soit moins importante à la fin du mois, là aussi il y a des crédits. Donc moi je veux bien qu'on dise qu'il n'y a que 4 milliards qui vient financer, mais ça c'est des aides effectivement, prime conversion, chèque énergie, etc. Mais il faut regarder le budget de manière globale.
Delphine Simon, oui, de la rédaction de France Inter.
Bénédicte Pérol, est-ce que le gouvernement n'a pas eu le tort, finalement, de présenter comme écologique une augmentation de taxes qui, effectivement, de tout temps a servi comme taxe de rendement pour le budget? Est-ce que ce n'est pas, justement, une erreur d'avoir présenté ça comme servant à l'écologie?
Non, et encore une fois, ce n'est pas ce gouvernement qui a introduit la contribution climat-énergie. Nous avons accéléré la trajectoire. C'est sous le gouvernement de Ségolène Royal. C'était à l'unanimité, j'allais regarder les fameux discussions et négociations en commission spéciale, et j'avais l'unanimité. J'avais Julien Aubert, LR, qui disait qu'il fallait absolument un signal prix, une contribution climat-énergie. J'avais monsieur Panchère, j'avais tout le monde autour de la table. Et donc nous, effectivement, on a choisi d'augmenter, d'accélérer cette trajectoire. Et oui, c'est important. Pourquoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, les Français voient une augmentation du prix à la pompe, mais 70% est dû à l'augmentation du prix du baril et donc à des événements internationaux. Le reste est dû effectivement à une augmentation de taxes. Mais au-delà du prix à la pompe, c'est un signal entier qui est donné à l'économie. C'est un signal qui est donné aux industries qui sont censées venir investir ailleurs que dans des économies qui sont carbonées. Donc il faut aller, j'ai envie de dire, il faut essayer. Moi, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est ce que j'essaye de prendre de la hauteur aussi, parce que notre objectif, c'est quoi? Bien évidemment, c'est d'accompagner les Français et de faire la transition avec les Français. Mais c'est aussi transformer notre économie de manière générale. Il y a 3 mois, on nous disait, Nicolas Hulot part, c'est scandaleux, il n'y a pas de politique environnementale dans ce gouvernement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de la tenir. C'est compliqué d'expliquer aux Français qu'est-ce qu'on souhaite faire à travers cette fiscalité écologique, à travers cette contribution climat-énergie. Mais ce qu'il faut dire aux Français, et je sais que c'est compliqué à comprendre, moi je peine en circonscription, mais je m'accroche et j'essaye de tenir debout parce que je pense que ce pari, il faut qu'on le fasse. Moi je suis très attachée à l'avenir.
Mais les Français vous répondent, oui, mais certains Français, il y a un quotidien difficile, il y a des fins de mois difficiles, et la transition écologique, c'est très bien, mais quand on n'arrive pas à boucler son budget et que le budget transport augmente, on s'en sort pas.
Je l'entends et encore une fois, élue d'une circonscription rurale, je serais vraiment complètement déconnectée des réalités si je n'étais pas à l'écoute. Il y a encore deux semaines, j'étais dans une petite commune de 160 habitants qui s'appelle Lode, et bien évidemment qu'on a eu ces débats et je leur ai pas dit, mais franchement, vous comprenez rien, la transition écologique, non. Ce qu'aujourd'hui on essaye d'ajuster justement, c'est effectivement comment on les accompagne mieux. Et c'est vrai que vous, Monsieur Carlier, expliquait c'est comment on redistribue d'une certaine manière. C'est-à-dire que on sait très bien, et dans mon rapport que j'ai produit, de toute façon, il est public, vous pouvez aller le voir. On sait très bien qui aujourd'hui est impacté de manière plus importante. C'est les territoires ruraux, les territoires périurbains et les deux premiers déciles. Comment on fait pour les accompagner ?
Il y a actuellement des pistes envisagées pour aider les Français en difficulté. François Carlier, parmi toutes ces mesures envisagées, élargissement du chèque énergie, doublement du nombre de primes à la conversion, des aides pour ceux qu'on appelle les gros rouleurs qui pourraient justifier de leurs nombreux kilomètres annuels. On va dans la bonne direction ?
Oui, il y a des mesures tout à fait intéressantes. J'en cite notamment une, c'est sur le fuel domestique, parce que ça, c'est vrai qu'en milieu rural notamment, il y a beaucoup de gens qui sont au chauffage au fuel domestique, qui ont des consommations importantes, et là, l'augmentation du prix du fuel l'a fait vraiment très très mal. Donc leur donner des aides pour changer de chaudière, c'est une bonne chose.
Au standard, avec nous, Marc. Bonsoir Marc, il patiente depuis un moment, pardon. Bienvenue Marc.
Pas de souci. Merci beaucoup de prendre ma question et merci à France Inter pour toutes vos émissions. Je vais essayer de faire bref. En fait, c'est une question toute simple. Il y a eu un rattrapage de l'industrie automobile par l'État il y a à peu près une dizaine d'années, avec une prime à la conversion automobile. Et maintenant, en fait, on veut les re-sauver avec l'électrique, sachant qu'ils sont des marges assez phénoménales sur les véhicules électriques, qui sont à peu près équivalentes aux marges des véhicules premium allemands. Donc dans quelle mesure l'État peut faire pression pour juste qu'il se fasse moins de marge et qu'on puisse effectivement accélérer la transition ?
Qui veut répondre, Bénédicte Pérol ? Les véhicules électriques, pour l'instant, enfin, c'est quand même cher là, pour l'instant.
Oui, et justement, alors c'est la transition est toujours compliquée. Hein, c'est-à-dire que on va pas passer du jour au lendemain au tout électrique. Moi, je suis très favorable à un mixte énergétique parce que aujourd'hui, il faut développer l'hydrogène. Il y a plein d'énergies aujourd'hui à développer. On sait qu'aujourd'hui, le véhicule électrique aujourd'hui, en tout cas, il est produit et il est produit de plus en plus massif par les industries automobiles. Et donc, du coup, ça veut dire éventuellement des prix plus bas aussi. Plus il y aura des gens qui achèteront des véhicules électriques, plus ces prix diminueront.
Mais il n'empêche que pour les bornes électriques pour recharger.
Absolument.
Et là aussi nous sommes en retard.
Et là vous savez,
France.
Eh ben attendez, moi je vais vous dire, dans mon département aussi, les collectivités sont extrêmement mobilisées. Je suis souvent touchée, heurtée quand on parle des territoires ruraux comme des territoires qui seraient vraiment à la marge de tout. Bah, dans l'Allier, il y a le syndicat d'électricité, donc c'est un syndicat de collectivité qui a une politique extrêmement dynamique en matière de transition énergétique. Il y a plus de 70 bornes dans l'Allier qui sont à équidistance de 30 km chacune. Donc les collectivités sont engagées et c'est vrai que maintenant, ce qu'il faut arriver à faire, c'est connecter, on va dire, les intérêts des uns et des autres, accompagner les Français parce que acheter une véhicule électrique aujourd'hui, effectivement, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'on a on a renforcé les primes à la conversion des véhicules, mais on a encore beaucoup d'efforts à faire parce qu'effectivement, encore une fois, un ménage fragile, pour sortir 2000 euros de trésorerie, c'est pas simple, hein, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde.
Nous avons en ligne Cécile. Cécile, bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Donc j'avais une question toute simple. Je vis donc à Aiguilles, à côté d'Aix-en-Provence, et je travaille à côté de Marseille sur Allo, donc c'est le nom du village.
Oui.
Donc je fais en moyenne 80 km par jour. Et j'ai pas les moyens de prendre un autre véhicule. Comment je fais pour gérer un budget, sachant que le prix de l'essence devient exorbitant ?
Voilà, Bénédicte Pérol.
Alors, il y a plusieurs. Aujourd'hui, en tout cas, on va essayer d'apporter plusieurs réponses à ces travailleurs qui font effectivement de nombreux kilomètres par jour. Le président de la République, il a dit quoi ce début de semaine? Il a fait des annonces qui ont été très observées. Il a dit aujourd'hui, il faut qu'on accompagne deux catégories de Français. On va dire qu'on mette le paquet, qu'on renforce les accompagnements parce qu'ils existent déjà. Et aujourd'hui, la question, c'est comment on fait dans une situation conjoncturelle compliquée pour les accompagner. Pour les travailleurs, il nous a dit il y a deux cibles, les travailleurs, les salariés. Alors je ne sais pas, madame, si vous êtes salariée ou indépendante, mais c'est deux sujets différents parce qu'on ne répond pas forcément de la même manière. Et puis, il y a les précaires. Concernant les travailleurs, il y a aujourd'hui plusieurs pistes qui sont évoquées par le président de la République. Il y a des collectivités, il a pris l'exemple des Hauts-de-France, qui accompagnent aujourd'hui les travailleurs et proposent que l'État soit à leur côté pour renforcer ces aides. Mmh. Et on parle aujourd'hui de généralisation, mais est-ce que c'est avec les collectivités? Est-ce que c'est l'État qui accompagne? En tout cas,
les collectivités ne sont pas très chaudes.
Ce que je peux vous dire aujourd'hui, aujourd'hui, là, ce qui est plutôt dit, c'est l'État va en tout cas faire l'effort. Et aujourd'hui, on est en train de travailler avec le gouvernement, main dans la main, parlementaire de la majorité et le gouvernement, pour apporter des réponses d'ici la fin de l'année, pour que 1er janvier 2019, on puisse répondre et accompagner au mieux ces Français, notamment, qui font beaucoup de kilomètres pour aller travailler.
Le 1er janvier 2019, il y aura une augmentation assez sensible du prix des carburants.
Oui, c'est peut-être ce que je voulais dire.
François Carlier.
C'est d'une part, vous voyez, avec cette augmentation du prix du baril de pétrole, à un moment donné, pour les problèmes que souligne madame, le plus simple était peut-être de ne pas faire la hausse des taxes au 1er janvier 2019. C'est peut-être pas un totem si extraordinaire de vouloir faire à tout prix plus 3 centimes sur l'essence, plus 6 centimes sur le diesel. Ou alors faire un peu moins, plus 5 centimes sur l'essence, plus 3 centimes sur le diesel. Vous n'étiez pas obligé de vous accrocher, je dirais, comme un totem absolu sur cette augmentation de taxes, je pense. Par ailleurs, effectivement, cette notion de chèque carburant pour les gens qui ont des transports sur longue durée, qui sont captifs et qui doivent y aller pour travailler, c'est une bonne piste. Mais ça peut être que l'État qui finance, pour une raison très simple, c'est que quand même, les recettes de la fiscalité pétrolière, c'est pas les collectivités locales, c'est pas les entreprises. Donc très franchement, c'est celui qui quand même encaisse les taxes de financer, et ça me paraît assez...
Une petite.
Donc au prorata, elles pourront. Mais enfin, je dirais, la grosse part, c'est quand même l'État.
Des courriels sur le site de l'émission. Là, on parlait des voitures électriques. Bonjour, j'ai une voiture électrique. C'est une galère pour la recharger dès que je fais des trajets de plus de 150 km ou que je prends l'autoroute. À quand des bornes de recharge rapide avec la même carte et devant toutes les mairies et sur les parkings? Il y a quand même un sous-équipement dans ce domaine-là, alors que la voiture électrique, c'est une voiture qui ne pollue pas.
Oui, les véhicules électriques, effectivement, aujourd'hui, l'industrie automobile y travaille pour essayer au maximum de faire en sorte qu'on puisse faire le plus de kilomètres possible. Et puis vous avez, c'est pour ça qu'on a élargi la prime à la conversion des véhicules aux hybrides rechargeables aussi, parce que c'est bien d'avoir un réservoir de secours pour faire les derniers kilomètres. Mais en tout cas, aujourd'hui, les constructeurs automobiles travaillent. Alors là, c'est un cas particulier aussi, avec une personne qui a un usage particulier du véhicule électrique. Je pense que, effectivement, quand on fait le choix, le consommateur fait le choix d'acheter un véhicule électrique, il faut que ce soit adapté à sa mobilité quotidienne, et c'est important, et il faut que le consommateur d'ailleurs soit informé quand il fait l'achat de son véhicule.
Guillaume, sur le site, une très bonne question. Le carburant est-il plus cher en France qu'ailleurs en Europe, alors que les cours du pétrole sont les mêmes pour tous? Ça, c'est pour Delphine Simon.
Ça dépend de quel carburant et de quel pays on parle, effectivement. Mais la France est le sixième pays le plus cher pour ce qui concerne le gasoil, ou le gazole, ça dépend comment on le prononce. On est à peu près 9 centimes plus cher que la moyenne de l'Union européenne.
Donc si on est plus cher, c'est parce que nos taxes sont plus élevées?
Absolument, c'est ça la variable d'ajustement d'un pays à l'autre. On est, je crois, vice-champion d'Europe en matière de taxes sur le gazole. En gros, c'est 57% la part des taxes sur le litre de gazole. Donc on est parmi les champions de la taxation, en tout cas en Europe.
Bénédicte Pérol,
sur ce sujet-là, ça n'a pas changé depuis la contribution climat-énergie. C'est à regarder. Mais des chiffres que j'ai, je ne crois pas que c'est depuis ce gouvernement que les taxes sur le carburant sont aujourd'hui plus importantes. Donc, à prendre avec précaution ces comparaisons internationales. Et aujourd'hui, ce soir, on parle beaucoup des augmentations d'impôts, mais on pourra parler aussi, dans une autre émission, je l'espère, des diminutions d'impôts que ce gouvernement met en place.
Et la taxe d'habitation.
Par exemple.
Un appel de Frédéric Apo qui veut intervenir. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir à tous. Je pense que la fiscalité écologique, elle peut être punitive ou facilitatrice, mais surtout, je pense qu'elle devrait être cohérente et incluse dans un grand plan d'ensemble. Et augmenter, disons, les taxes sur le diesel sans avoir un plan de remplacement pour les transports, ça ne veut rien dire. De se prétendre président de la Terre en diminuant la même année le crédit d'impôt pour la transition énergétique, ça n'a aucun sens. Alors le problème, c'est que nous sommes pressés, la situation est urgente, la température augmente et les transformations vont coûter un argent fantastique. Alors, il faut donc un plan d'urgence gigantesque. Et là, une des questions que je poserai, je ne sais pas si les intervenants ont entendu parler du pacte de finances climat européen proposé par Jean Jouzel et accessoirement Pierre Larouturou, qui propose un plan de financement à l'échelle européenne pour avec des prêts, disons, à taux zéro, de la BCE aux États, à hauteur de 1 000 milliards pour l'Europe par an.
Si. On va vous répondre, Frédéric. François Carlier.
Oui, on peut rappeler que lors des 30 Glorieuses, en France, quand on a décidé de construire plein de choses, du logement social, les infrastructures, à l'époque, ça se faisait avec la Banque de France qui prêtait de l'argent quasiment, je dirais, à fond perdu au Trésor. Et là, en fait, la proposition qui est faite là au niveau européen, c'est effectivement de profiter que les taux sont bas, les taux de la Banque Centrale Européenne soient bas, qu'elle puisse proposer des taux zéro pour tout ce qui est investissement, la transition énergétique, pour faire des grands investissements infrastructure. Alors j'ai conscience que c'est compliqué. La seule chose que je voulais dire, c'est que vous voyez, quand on parle de l'électrique, je rêve à qu'on revienne à ce qu'on faisait dans les 30 Glorieuses, c'est-à-dire de dire, pour vraiment que nos enfants n'aient pas de voiture à essence, l'idée, je pense que c'est les bornes de recharge, ça soit un grand investissement dans l'infrastructure français européen qui le fasse, les subventions pour les voitures électriques, ça soit ce grand plan d'infrastructure, et peut-être que la proposition qui est faite avec le taux zéro, ça peut être une piste à regarder.
Des courriels, on nous écrit ceci. Pourquoi ne pas augmenter le tarif des parkings de centre-ville et reverser ces moyens sur la gratuité des transports collectifs? On nous écrit à Nantes, de nombreux parkings du centre-ville sont occupés par des voitures qui ne bougent pas beaucoup. Et puis alors, il y a quelques auditeurs qui ont noté un article qui est paru dans Le Monde cet après-midi. Le Monde affirme qu'en fait, la prime à la conversion favorise surtout l'achat de voitures diesel, 47%, et essence, 46%, principalement d'occasion, 60% contre 7% de véhicules électriques. Alors, on nous parle des bienfaits de la prime à la conversion, mais semble-t-il, il y a des effets pervers.
Disons que c'est jamais évident. Tout ce que je peux témoigner qu'à l'époque du bonus-malus sur les voitures économes en 2008, c'était le bonus, c'était beaucoup un bonus sur les petites voitures diesel. J'ai acheté en 2008 ma seule voiture sur les c'était une voiture diesel parce qu'il y avait un bonus écologique, parce qu'à l'époque tout ce qui comptait c'était la consommation en litre 100, et c'est vrai que après le diesel on s'est rendu compte qu'il y avait plein de problèmes, et donc ce bonus c'était pas une bonne chose. Donc c'est vrai que bon, il faut faire attention aux critères qu'on prend, c'est jamais évident. Ouais.
Bénédicte Pérol.
Oui, enfin, je pense que, et dans l'interrogation du monsieur, mais ça fait sens avec ce que monsieur Carrie vient de dire, il parle de cohérence de la fiscalité écologique, et tout le travail qu'on a fait dans le cadre du comité de l'économie verte auquel le monsieur Carrie appartenait et sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, c'est la question qu'on se pose dans ce rapport. Et alors c'est un problème de politique publique, et c'est vrai que la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est quelle cohérence on donne de manière globale à la fiscalité écologique dans notre fiscalité nationale. Et moi je pense que ce gouvernement aujourd'hui, c'est ce qu'il essaye de faire. La complexité, c'est d'expliquer notre action, c'est la transparence de notre action. Les Français demandent beaucoup et ça faisait partie des questions. Qu'est-ce qu'on fait des recettes? Comment cette fiscalité aujourd'hui elle est intégrée dans l'ensemble fiscal? Et je pense que c'est vrai que cette cohérence elle est extrêmement importante. Elle est importante aussi sur effectivement bonus-malus versus prime à la conversion. Est-ce que finalement j'ai la même politique de manière globale concernant le diesel sur tous les dispositifs? Et aujourd'hui on y travaille.
Mais on est quand même très surpris que cette prime à la conversion favorise surtout l'achat de voitures diesel.
Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on souhaite faire aujourd'hui à travers la prime à la conversion? C'est faire évoluer en fait le stock de. Enfin, en tout cas, ouais. J'ai envie de dire le stock de véhicules. On est dans une transition et justement toute la difficulté, elle est là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on fait des accompagnements. La transition, on va pas passer du jour au lendemain à que des véhicules électriques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour émettre moins de CO2 et atteindre notre objectif neutralité carbone en 2050? C'est faire évoluer les flottes de véhicules. Donc, ça veut dire quoi? C'est je sors les vieux diesels pour aller vers des diesels moins polluants. polluants, des très vieux essences vers des essences moins polluants, et donc avec des émissions de CO2 qui sont moindres. Cette transition, elle se fait étape par étape, et c'est ça qui aujourd'hui est extrêmement compliqué dans les politiques publiques qu'on peut mener, et où on doit ajuster en permanence l'accompagnement des Français.
Mais vous vous rendez bien compte de cette colère qu'on lit hein, sur le site de l'émission, c'est-à-dire on nous écrit, voilà, le gouvernement nous annonce, le pouvoir d'achat va augmenter, suppression de la taxe d'habitation, suppression de cotisations, donc vos salaires ont augmenté, et en même temps, hausse des taxes sur les carburants, donc ce qu'on donne d'une main, on le reprend d'une autre. C'est ce que Emmanuel Macron a entendu toute la semaine.
Mais attendez, du premier, alors la colère des Français, bien évidemment, encore une fois, je suis pas sourde, même si je passe beaucoup de temps en ce moment à l'Assemblée nationale et je le regrette parce que j'aimerais être au plus près de mes habitants, les habitants de la circonscription.
Il paraît que les députés de la République en Marche se font sérieusement enguirlander, si je puis dire, actuellement dans leur circonscription.
Non, mais c'est difficile. Je vais pas vous dire qu'encore une fois, on est sur nos circonscriptions. Donc nos circonscriptions, elles sont, on est face aux Français, et face aux Français, c'est quoi notre rôle de député quand ils viennent dans notre permanence ou qu'on va à leur rencontre? Bah, c'est de leur expliquer. Mais il y a un moment donné, et cette colère, on l'entend, mais ça ne veut pas dire que la colère, encore une fois, elle doit nous faire basculer notre horizon politique. Je veux dire, il y a un moment donné aussi, et c'est peut-être ce qu'on fait pas assez, c'est d'expliquer cette logique qu'on essaye de mettre en place.
François Carlier,
bon, c'est une période de transition, donc c'est une période qui pas simple pour personne. Bon, donc il faut essayer de quand même je pense à un grand investissement public pour permettre d'accompagner cette transition et puis moduler les choses. Là je répète, vous avez décidé d'une augmentation de taxes tous les ans pendant 5 ans. Je pense que depuis le prix du baril a beaucoup monté et que vous pouvez quand même un peu moduler votre politique, pas la changer mais un peu la moduler.
Bénédicte Pérol.
Moi je pense qu'il est important de maintenir ce cap-là parce que on viendra nous voir. Il y a un an, il y a même quelques mois. Moi, j'aurais aimé qu'on écrive des articles il y a quelques mois sur la fiscalité écologique. J'aurais aimé que tout le monde se saisisse de ce sujet-là. Moi, ça fait des mois et des mois que je travaille sur ce sujet-là. Donc, j'aurais aimé qu'on se saisisse de ce sujet. Et je pense qu'il est important aujourd'hui. On souhaite tous la transition. C'est une urgence aujourd'hui. Donc, il y a un moment donné, les politiques qu'on mène, il faut aussi qu'elles soient stables. On a dit qu'on le ferait, on le fait. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ajuste l'accompagnement des Français, parce qu'effectivement, cette transition, elle est compliquée. On la fera que tous ensemble et qu'en adhésion avec les Français. Sinon, effectivement, ça risque d'être compliqué.
C'était le téléphone sonne. Merci à nos invités Bénédicte Pérol, François Carlier et Delphine Simon.